Mentorat Québec s'est donné comme but d'accompagner les organisations et les individus dans leur découverte des nombreuses facettes du mentorat, dont les meilleures pratiques qui pourraient vous inspirer dans vos propres démarches. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jacques Lavigne, auteur de l'article « Le couple de co-développement, une approche de formation continue pour des mentors qui soutiennent l'insertion et l'intégration socio-professionnelle de personnes immigrantes ». Publié dans la Trousse mentorale 2021, l'article porte sur le besoin de formation des mentors dans leur rôle d'accompagnant auprès des personnes immigrantes.
Jacques Lavigne, tu as écrit pour la Trousse mentorale 2021 avec Nathalie Lafranchise, qui est professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM, qui a été en fait ma professeure aussi en mentorat. Et cet article que vous avez co-rédigé s'intitule « Le groupe de co-développement, une approche de formation continue pour des mentors qui soutiennent l'insertion et l'intégration socio-professionnelle de personnes immigrantes ». C'est un long titre, mais on va voir pourquoi. Alors, c'est un sujet fort important pour le mentorat, parce qu'il y a peu de recherches, en fait, et même de littérature à propos de la formation continue des mentors. Et avant de parler de ton article ou de votre article, j'aimerais peut-être un peu que tu nous parles de toi puis de ton intérêt aussi pour le mentorat.
OK. Bon, mon intérêt, il vient de quelque part de très loin. C'est-à-dire que j'ai, dans une autre vie, j'ai été coopérant d'abord au niveau de l'immigration. Je commence à placer les choses. Au niveau de l'immigration, j'ai passé 2 ans comme coopérant international au Cameroun, fin des années 70. Par la suite, quand je suis revenu à Montréal, je suis biochimiste, technologiste de formation en recherche médicale et j'ai passé une trentaine d'années dans les différents instituts de recherche à Montréal avant tout là. Et durant ces années-là, j'ai accompagné des étudiants qui étaient au niveau de la maîtrise, doctorat, postdoc, à la fois d'ici et à la fois de l'étranger. Et là, j'ai développé un goût d'accompagnement des personnes. Et à la fin de ma retraite, je suis allé faire un peu comme toi à l'UQAM une formation de second cycle en mentorat. Et durant cette formation-là, j'ai rencontré des gens comme Christine Cuérier et Nathalie Lafranchise surtout. Et à la fin de cette formation-là, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. Finalement, j'ai Nathalie Lafranchise, qui est professeure au département de communication sociale à l'Université du Québec à Montréal, m'a offert de faire une maîtrise, un projet de recherche de second cycle sur la formation des mentors en milieu d'immigration.
Alors,
et l'autre chose, oui, que j'ai oublié de mentionner, c'est que je suis mentor auprès des personnes immigrantes depuis 2010 et je continue, j'accompagne actuellement un mentoré d'origine immigrante.
Donc, très trempé dans le mentorat depuis plusieurs années. Et le texte, en fait, que vous avez écrit découle d'un mémoire de maîtrise, justement, dans lequel tu as choisi de faire cette recherche-intervention sur le terrain avec des mentors qui participent à des programmes de mentorat qui ont justement pour but de favoriser l'intégration des immigrants. Alors, qu'est-ce que tu voulais vérifier avec ton projet de recherche?
Bon, ce qu'on voulait vérifier en premier lieu, c'est que on voulait améliorer la formation des mentors. Parce que à la fois dans la littérature, puis à la fois avoir côtoyé des mentors qui œuvraient dans le domaine d'accompagnement, des premiers arrivants, des immigrants, répété et mentionné qu'ils se sentaient pas suffisamment outillés pour bien accompagner ces personnes-là, ces mentorés-là. Et en faisant le tour de la littérature, on s'est rendu compte qu'il y avait il y avait peu de programmes de formation continue au niveau de l'accompagnement mentoral. surtout dans un contexte d'intégration des immigrants. Fait que donc, Nathalie puis moi, on a décidé que quelque part, fallait aller expérimenter quelque chose d'autre. Et finalement, ben, on a tombé sur, comme auteur, comme chercheur aussi, que vous connaissez très bien, Étienne Saint-Jean, qui suggérait le co-développement de Payette et Champagne comme moyen de formation des mentors dans un contexte de formation continue du mentor. Parce que ce que disait Christine Cuerrier dans les années 2003, son étude pan-canadienne, c'est que la formation des mentors a toujours été un parent pauvre des programmes de mentorat. Et quand c'était fait souvent dans un cadre de, comment dire ça, administratif, comment fonctionnait le programme, mais peu dans l'accompagnement et la formation de mentors.
Alors donc, c'était pour démontrer dans le fond que le co-développement était une formule qui pouvait aider les mentors à se développer davantage.
Oui, des accompagner dans leur sens. Dans le fond, c'est qu'on a expérimenté cette technique-là parce que c'est une technique de transfert de savoir expérientiel et surtout la beauté de cette technique-là, de cette méthode-là plutôt, elle est très, bienveillante envers les gens qui participent et elle n'engage à rien à ce que les gens, exécute ce qu'on leur propose et ça l'a permis par expérience d'avoir un soutien entre les mentors et souvent dans le cas d'un mentor parce que je suis mentor on se retrouve seul devant notre mentorie puis on sait pas comment faire et quand on se réfère à l'organisation la personne qui chapeaute ça souvent elle fait ça sur un coin de table elle est prise à faire d'autres choses et en ayant dans un groupe de co-développement, c'est qu'on réunit des gens de même pratique qui sont intéressés à s'entraider. Et là, à ce moment-là, on peut entraîner d'autres formations qui viennent de l'extérieur, soit de la documentation, soit même des gens qui peuvent faire une mini conférence en ligne ou formation en ligne. Je pense à certaines vidéos qu'on est allé chercher pour compléter la formation des mentors. Donc, c'était pour nous, et c'est encore pour moi, en tout cas, un bon moyen de formation pour les mentors.
Alors, justement, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le concept du groupe de co-développement professionnel de Champagne-Payette, qui a été développé au Québec, est-ce que tu pourrais nous décrire sommairement de quoi il s'agit? Comment ça se passe?
Bon, premièrement, c'est Adrien Payette et Claude Champagne. C'est vers les années fin des années 90 qui ont développé la méthode de co-développement professionnel, qui définissent comme une approche de formation en groupe restreint, puis qui mise sur l'interaction entre les gens pour échanger des idées, échanger des savoir-faire, des savoir-être. Et depuis ce temps-là, ben il y a eu plusieurs auteurs qui ont un peu comme embarqué dans le co-développement, qui ont fait des recherches. Je parle entre autres d'Étienne Saint-Jean, je parle de Nathalie Affranché, Nathalie Sabourin. Ce sont des gens qui sont très impliqués dans l'optimisation, l'enrichissement du co-développement. Puis en fin de compte, le co-développement, on peut dire que c'est une petite communauté de pratique qui permet à des personnes participantes de partager leurs pratiques, de se conseiller mutuellement, d'élargir la compréhension des différentes problématiques pour se développer professionnellement. Dans le cas qui nous intéresse, c'est du mentorat. C'est pur. Il n'y a plus d'ordre professionnel, mais quand même, c'est une ordre d'une activité très bien structurée. Puis en général, bon, on se donne comme marge entre chaque séance de co-dev environ 4 à 6 semaines d'espace de temps pour permettre aux gens d'intégrer ce qu'ils ont appris à la séance précédente.
Donc, le processus lui-même, vous le suivez, vous l'avez suivi tel que Champagne-Payette le propose, hein?
Oui, effectivement. Là, ce que je peux faire, je vais vous décrire effectivement comment se passe une séance de co-dev. Premièrement, on a ce qu'on a, nous, on appelle le temps zéro. Ce temps zéro, c'est le temps où l'animateur, parce que dans un groupe de co-dev, il y a 3 types de personnes, il y a 3 rôles. Il y a l'animateur, il y a le client et les consultants. Le client est celui qui va présenter sa problématique ou son projet. Et les consultants sont ceux qui vont écouter, qui vont venir en aide, qui vont apporter du soutien au client, tandis que la personne qui est l'animateur va gérer le temps, va gérer le temps de parole. Donc, dans un premier temps, on a ce qu'on appelle, nous, l'étape zéro. Ça, proprement dit, c'est que l'animateur aide le client à préparer son exposé. Donc, ça se fait souvent par téléphone. Il demande qu'est-ce que tu veux présenter, c'est quoi les éléments les plus importants, tout ça, pour permettre au client de la séance suivante de bien se préparer, de bien préparer son sujet. Donc, ça va être plus facile pour lui pour le présenter. Bon. À la séance proprement dite, on a cette étape. Bon, la première étape, c'est l'exposé du client. Le client qui présente sa problématique ou son projet. Puis l'objectif de cette étape-là, c'est d'informer les consultants et l'animateur sur l'état des faits. Quelles sont les préoccupations, les sentiments du client? Comment il voit sa difficulté? Comment il voit son projet? Donc, habituellement, ça se fait entre une dizaine de 10 et 15 minutes que le client a devant lui pour présenter son...
Alors, qui est le mentor qui a une problématique à présenter?
Ouais, le mentor a une problématique à présenter. Je vous donne un exemple. Nous, on a eu des mentors à un moment donné qui avaient une problématique avec question culturelle. Il y avait un problème. Il ne savait pas comment se prendre avec la personne pour l'aborder au point de vue culturel. Fait que donc, les autres mentors qui sont des participants l'ont aidé. Mm-hmm. À l'étape suivante, ce qu'on fait, dans les séances de CODEV, c'est qu'on vient questionner le client. On veut en savoir plus. On veut aller un petit peu plus loin. C'est les où, les quand, comment, combien de fois tu as rencontré ton mentoré, quand tu l'as rencontré, sur quoi. Tu sais, l'amener à donner un peu plus de chair à sa présentation, mm-hmm, pour nous aider par la suite à l'aider dans sa résolution de problème. Suit à ça, qu'on appelle, nous, le contrôle consultation. Et là, c'est très important dans cette étape-là que tout le monde ait la même compréhension de la problématique. Donc, l'animateur va demander aux gens, aux consultants, qu'est-ce qu'ils comprennent, de résumer la situation. C'est quoi la situation de notre client cette fois-ci? Et par la suite, ils vont inviter le client à faire une demande au groupe. Moi, je vais t'aider. On disait tantôt, j'ai un problème culturel avec mon mentoré. Est-ce que vous pourriez m'aider à le résoudre? Donc, les participants, les consultants et l'animateur vont par la suite, à l'étape suivante, fournir des pistes de solutions. Souvent, ce sont des expériences, parce que dans le cas qui nous intéresse, nous, il y avait dans le groupe, il y avait des gens qui avaient eu la même dynamique, la même difficulté. Et là, je parle surtout, effectivement, on avait une difficulté religieuse, comment adopter, comment aborder la problématique de l'aspect religieux. Fait que, si bien que d'autres avaient passé par cette difficulté-là avec leur mentoré, et il y avait des expériences, il y avait des réflexions, puis ils pouvaient répondre aux clients. À l'étape suivante, habituellement l'étape 4, l'étape d'offre de pistes de solutions dure à peu près 15-20 minutes. À l'étape suivante, le client, lui, va résumer ce qu'on vient de lui dire et il va, essayer de choisir une piste de solution pour résoudre son problème. Et il est toujours libre de choisir. Ouais. On cherche pas la solution parfaite, mais on veut que le client puisse lui-même choisir ce qui est bon pour lui.
Donc, ce qui lui convient dans sa situation ou sa perception.
Oui, ce qui convient parfaitement à lui. Pas à l'animateur, pas aux autres consultants. Des fois, c'est complètement l'inverse. Et des fois, ce qu'ils font durant cette période-là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils peuvent partir uniquement avec des informations et non pas des actions. Puis ça leur permet de prendre du recul par rapport à la problématique. Ça a été souvent relevé.
OK.
Puis à l'étape suivante, c'est que l'animateur, en début de séance, demande à tout le monde de se fixer un objectif pour la rencontre. ça peut être améliorer son écoute ou ça peut être plus présent au mentor, à la séance. Fait que si bien que les autres participants vont donner leur appréciation et ce qu'ils en retiennent de la séance de co-développement. À l'étape à la séance suivante, ce que nous on appelle l'étape 7, on va faire un retour sur les actions qui ont été entreprises entre les deux séances. Qu'est-ce que le client a fait ou se prépare à faire, et aussi où sont rendus les autres consultants, les autres participants dans leur démarche personnelle vis-à-vis le mentorat qu'on a actuellement là, face aux mentorés.
Alors Jacques, évidemment, ton hypothèse de départ par rapport au groupe de co-développement, savoir est-ce que c'est utile pour les mentors pour se développer leurs compétences dans leur rôle, est-ce que tu as pu la vérifier dans la réalité de ces animations-là des groupes?
Hein? Oui. Bon, on avait trois questions auxquelles nous devions répondre au début de notre projet. Puis une de ces questions-là, on se demandait en quoi le groupe de co-développement professionnel est-il une approche de formation continue appropriée et utile pour des mentors qui soutiennent des personnes immigrantes. Et bon, on a fait sept séances, et à la fin, on a fait une séance bilan. Et c'est durant cette séance bilan, on a demandé aux mentors participants ce qu'ils avaient réinvesti dans leur pratique mentorale suite aux connaissances qu'ils avaient acquises durant les séances. Et parmi les éléments mentionnés, bon, je vais en nommer quelques-uns parce qu'on en a plusieurs, c'est d'avoir pris davantage conscience de l'importance du respect mutuel dans la relation mentorale, d'avoir mieux structuré ses rencontres. Et souvent, les mentors se présentaient à la rencontre puis ils ne savaient pas trop, on faisait du coq à l'âne, on était loin de l'objectif désiré du mentoré. Puis d'avoir échangé plus longuement avec le mentoré sur ses besoins à lui, sur ses attentes, d'avoir pris le temps d'écouter. L'écoute est extrêmement importante dans une relation mentorale. Il faut pas, souvent, c'est qu'on a tendance à trouver une réponse puis ne pas écouter l'autre dans son discours, si on veut. Puis aussi, on a dit, ce qui était important que certains mentors avaient oublié de faire, c'est de se révéler, de se présenter. Et c'est non pas nécessairement la problématique du mentoré, mais la personne elle-même. C'est essayer de sortir du problème et s'occuper de la personne elle-même. Recadrer aussi le rôle du mentor, parce que le mentor, c'est pas le père, c'est pas le fils, c'est pas le, comment dire ça, c'est pas le copain, c'est pas l'investisseur, c'est un mentor. Ouais. Donner plus de rétroaction au mentoré, aussi exercer la fonction de soutien, c'est très important, parce que dans le cas d'immigration, il faut pas oublier que souvent on a affaire à des gens qui partent de loin et souvent ils sont seuls. Comme là, le mentoré que j'ai ici est tout seul, sa famille est restée là-bas, son épouse est restée là-bas. Donc, le soutien est extrêmement important dans cette situation-là par rapport à un mentoré d'origine qui est issu de l'immigration. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a des jeunes. Donc, les moyens de communication sont plus les mêmes. Hein? Facebook, on a les messages textes, ça, bon vieux téléphone, des fois, ne fonctionne pas nécessairement. Et aussi la pertinence de confronter le mentoré. C'est-à-dire, le mentoré, il hésite à bouger, bien, des fois, il faut le brasser. Fait que oui, le groupe de développement professionnel de Payette et Champagne a permis aux mentors d'acquérir de nouvelles connaissances, mais en plus, ce que Nathalie et moi, on a trouvé extrêmement enrichissant, c'est qu'ils ont réinvesti dans leur pratique mentorale. Et ça, ils nous l'ont répété, si vous allez vérifier dans notre mémoire, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments où les mentors font part qu'ils sont servis ce qu'il y avait.
Il y a eu des ancrages. Il s'est créé des ancrages.
Oui, il y a eu des ancrages. C'est le mot. Effectivement, c'est le mot.
OK. Et si moi, je suis coordonnateur ou coordonnatrice d'un programme de mentorat, comment est-ce que je devrais m'y prendre pour, si je veux utiliser le co-développement? Parce que, comme tu le mentionnais tout à l'heure, il y a quand même pas beaucoup de littérature et beaucoup de recherches sur la formation continue des mentors. On en parle, en fait, de les initier, des orienter. Et après ça, c'est pareil comme si on devait les laisser aller. Et Étienne Jean, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, lui, a réalisé que les mentors ne s'améliorent pas nécessairement avec le temps. Alors, comment je m'y prends, moi, si je veux utiliser le co-développement?
Bien, je dirais dans un premier temps, faire un peu de publicité à l'Association de co-développement professionnel du Québec. Ils donnent des formations. Moi, j'ai souvent pris des formations, ça m'a aidé, ça m'a donné un coup de pouce. Mais pour revenir à notre article, puis bon, si les gens vont voir la section 2.2, on aborde trois aspects très importants de prendre en compte pour le développement des compétences motorales. Puis ces compétences-là que nous avons, qu'on nous mentionnons, oui, ils sont dans un cadre d'immigration, mais ils peuvent être appliqués à n'importe quel autre programme de mentorat. Ça, c'est clair. Bon, les trois aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect méthodologique. L'animateur doit absolument appliquer la méthode du co-développement et de ses 7 étapes, pas arrêter à la 3e, 4e étape. Il doit aussi donner la liberté au client de choisir les pistes qui conviennent le mieux pour lui, sans pression et sans surtout chercher le consensus. Il peut être le seul à penser à prendre une direction dans le groupe, ça y appartient, c'est lui le client. Et l'animateur doit être la personne qui le soutient. Il doit aussi laisser suffisamment de temps pour approfondir la compréhension de la problématique à l'étape 2. On a absolument 10-15 minutes, mais on peut déborder si c'est pas clair. Il faut avoir une flexibilité dans le temps. D'ailleurs, une séance de co-dev, normalement, là, moi, je m'en tirerais jamais en bas de 2 heures. Il faut prendre un bon 2 heures pour que ça soit bien fait. Il doit encourager aussi les applications, les plans d'action, les retours sur les actions qu'on retrouve aux étapes 5 et 7. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Revenir dessus, pas laisser ça aller. Il doit adapter son animation à son groupe. Il doit assurer aussi une bonne gestion de temps et de prise de parole. Dans tous les groupes, il y a des gens qui vont prendre plus de parole que d'autres. Il faut doser, il faut aller chercher les plus timides, il faut ralentir les plus entrepreneurs si on veut. Et il y a aussi, bon, deuxième étape, le deuxième aspect, c'est les aspects groupables. L'importance de la composition du groupe et de la stabilité dans le temps. Tout comme le mentorat, pas tout le monde qui peut être mentor, mais c'est pas tout le monde aussi qui peut participer à une séance de être participant à une séance de co-développement. Prendre le temps de bien accueillir les gens. Moi, j'ai toujours pris le temps d'accueillir les gens, de leur parler, comment ça va. Si on est en présentiel, pensez à du café, quelque chose comme, pour faciliter la tâche. Puis revenir à chaque fois, à chaque séance, comment vont les gens, demander comment ils vont. D'ailleurs, j'avais un des mentors qui fait du mentorat depuis de nombreuses années. La première chose qu'il fait avec son mentoré, c'est « comment vas-tu? » Ouais. Et on fait la même chose en co-développement. La personne est importante. Ouais. Plus, tu sais, pas le problème. Être attentif à la dynamique du groupe. Des fois, des groupes, on se sent plus ou moins. Puis insister, ça, je trouve ça extrêmement important, l'importance de la confidentialité. Mm-hmm. Ce qui se dit dans un groupe de mentor, dans un groupe de co-développement reste dans le groupe. Comme le mentor avec le mentoré, ce qui se dit entre le mentor et le mentoré reste entre les deux. Mm-hmm. Les aspects relationnels et communicationnels, on est dans la communication, on n'a pas le choix. L'animateur doit accueillir une nouvelle idée, valoriser la participation de tout le monde, aller chercher des fois certains participants parce qu'ils sont, comme je dis, plus timides, ils pensent pas que leurs idées sont nécessairement bonnes. Puis toutes les idées sont bonnes, puis informées. Puis moi, souvent, ce que je faisais, étant donné que j'étais aussi, ce qui m'a aidé aussi pour répondre à une question, c'est je suis moi-même mentor auprès des migrations. Donc, ça me donnait un plus dans mon animation parce que j'étais l'animateur. Mais étant donné que j'avais une expertise par rapport à l'immigration, à être mentor au niveau de l'immigration et aussi mon expertise de coopérant, a fait que j'ai pu aider un peu plus les mentors dans la résolution de problèmes, apporter un angle qui était différent que si j'avais aucune notion de mentorat, d'accompagnement mentoral. Donc, dans le fond, là, ce que je viens de nommer, c'est les 4 fonctions d'animation, c'est-à-dire la facilitation, la clarification, le contrôle, l'organisation et la stimulation. Qu'on aille voir notre article,
aussi. Alors, Jacques, en fait, c'est fantastique d'écrire une thèse, mais qui se termine avec des éléments très pratiques qu'on peut mettre dans notre pratique, en fait, d'amélioration des compétences de nos mentors dans une organisation.
Voilà. Oui, c'est ce que j'ai plus apprécié, c'est qu'on n'est pas dans un cadre On part d'une théorie, on part d'un cadre théorique, évidemment, le mentorat un peu comme René Wood part d'un cadre, puis on vient appliquer directement chez des gens. Et en plus de ça, les mentors sont des gens généreux, ils donnent leur temps. Ils veulent que ça soit bien fait, puis souvent, ils se sentent démunis. Et le cours d'Ève leur a permis de se rencontrer entre eux, de s'entraider, de se soutenir, qui fait qu'on est arrivé à quelque chose de concret. Et quand ils sont retournés avec leur mentoré, ben là, ils sont vraiment contents.
Ben oui, absolument. Puis, en fait, c'est le partage, c'est la beauté du partage, en fait, de problématiques communes que des fois, les gens n'osent pas même s'avouer, en fait, ou qui sont même pas conscients, en fait, qu'ils ont cette problématique-là, eux aussi.
Alors, excuse-moi, ils sont pas conscients de leur valeur, de ce qu'ils connaissent. Ouais. Des fois, il faut aller les chercher. Oui, tu as toute cette expertise-là, cette expérience-là. Partage-la avec nous, tu vas nous aider.
Alors, Jacques, s'il y avait une ou deux choses qu'on devrait retenir de ton article issu de ta thèse, qui serait utile pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait?
Bon, premièrement, ça nous a permis de valider que le groupe de co-développement est un outil pertinent de formation continue des mentors. On a validé la littérature. Puis qui souhaitait faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Mais comme je disais tantôt, c'est un programme au niveau des nouveaux arrivants, mais c'est applicable à n'importe quel programme de mentorat. Et surtout, c'est un espace sécurisant et confidentiel qui est possible d'acquérir de nouvelles compétences mentorales. Mais je vais terminer en citant un de mes participants, parce que on a trouvé Nathalie, puis moi, ça résume le tout. C'est que il dit, moi, j'ai tellement appris ici parce que je n'avais pas trop compris la formation donnée par l'organisme. Je me sens plus à l'aise avec ce que j'ai appris ce soir. Ça me donne plein d'idées de comment aborder mon accompagnement mentoral, ce que je n'avais pas nécessairement vu avant et durant ma formation. Ici, c'est super ce que j'apprends de vous. Ça redouble ce que j'ai réussi à ce jour. Alors, quand on va finalement m'appeler pour un jumelage, je vais me sentir plus d'attaque. C'était un des éléments là, il n'est pas tout seul, là, qui disait, un entre autres qui avait dit, il dit 6 têtes valent mieux qu'une, puis.
Oui. Mais en fait, on sent que ça augmente la confiance des mentors par rapport à leur rôle comme mentor.
C'est comme on sent plus seul.
Ouais.
Sans groupe. D'ailleurs, ce que vous faites chaque année, le colloque de mentorat, moi, je trouve ça formidable qu'on arrive à avoir tant de gens qui font du mentorat sans le savoir.
Ouais. Alors, Jacques, merci infiniment. Merci à Nathalie, la franchise également, d'avoir produit cet article pour la trousse mentorale. Et j'invite tout le monde à le lire parce que la formation continue des mentors, en fait, on en a parlé aujourd'hui, mais je trouve que parfois, on pourrait aller beaucoup plus loin pour aider nos mentors dans les organisations. Alors, merci.
On va donner la chance d'en parler.
Très bien. Merci. Au revoir.
Nous vous invitons à poursuivre votre écoute afin d'obtenir des informations précieuses à propos du mentorat, de ses applications et de ses pratiques.